tarder d'ouvrir la bonne parole du Seigneur dans le psaume 90. Le psaume 90. Le psaume 90, il s'agit d'une prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la gloire de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Voilà, ce psaume 90 présente la particularité d'avoir été écrit par Moïse. Vous savez que dans le livre des psaumes, bien des psaumes ont été composés par David, certains par Asaph ou encore les fils de Corée. Deux psaumes ont été écrits par le roi Salomon, un par Étab. Celui-ci est le seul psaume qui ait été écrit par Moïse. On comprend en lisant cette composition que ce psaume a été écrit pendant les 38 années passées par Israël dans le désert, après que 10 espions sur 12 aient découragé le peuple et que Israël a manifesté de l'incrédulité par rapport à la conquête de Canaan que Dieu avait pourtant promis de donner à la postérité d'Abraham. Vous savez que Dieu avait jugé l'incrédulité d'Israël et avait annoncé que toute la première génération sortie d'Égypte, ceux âgés de 20 ans et au-dessus, qui étaient passés par le dénombrement, n'entreraient pas dans le pays, sauf Josué et Caleb, et qu'ils tomberaient dans le désert. Pendant ces 38 années passées au désert, on sait assez peu de choses sur ce qui s'est passé. Alors, il y a le récit de cet Israélite qui, par rébellion, est allé ramasser du bois le jour du sabbat. Il y a le récit de la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Puis tout à la fin de cette période, il y a l'affaire des eaux de Meriba, lorsque Moïse a frappé deux fois le rocher. Pourtant, il est clair que pendant toute cette longue période de 38 ans, Moïse n'a pas cessé de méditer sur la bonté de Dieu. Et malgré cette période singulière et la mort qu'il voyait tout autour de lui, puisque l'un après l'autre, tous les enfants d'Israël de la première génération sont morts dans ce désert, eh bien, la méditation des œuvres de Dieu a poussé Moïse à le prier. Ce psaume consiste en une méditation sur les œuvres de Dieu, c'est la première partie du psaume, jusqu'au verset 11, et puis ensuite, Moïse va prier, nous aussi, méditons sur les œuvres de Dieu, et que cette méditation nous pousse à la prière. Alors, que nous enseigne ce psaume à nous aujourd'hui ? Nous allons le voir, avant tout, à rejeter l'incrédulité et à nous fortifier dans la foi. En effet, nous voyons dès le premier verset du psaume que Moïse célèbre Dieu comme le refuge de son peuple. « Seigneur, écrit-il, tu as été un refuge pour nous de génération en génération. Voilà, pensons à Moïse qui a conduit pendant ses 38 années, 40 années en tout, en fait, le peuple sous des tentes. Vous voyez, dans ce désert, les tentes qui donnaient directement à l'extérieur faisaient bien sentir à Israël le besoin de la protection de Dieu. Et Moïse, au terme de ces 38 années, ou en tout cas à une période sans doute assez avancée dans ces 38 années, est conscient du fait que si Israël a subsisté, c'est grâce à la protection de Dieu. Et cette méditation le fait prendre conscience que si cela était vrai pour Israël sous les tentes, cela était vrai dès le départ. Dieu est le refuge de son peuple. Et pour nous, fortifions-nous dans la pensée que si l'Église a subsisté jusqu'à aujourd'hui, bien c'est grâce à la protection de Dieu. Dieu aime l'Église. En Jésus-Christ, il l'a bâtie. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Et le Seigneur, qui aime l'Église, la bénit et en prend soin. Et puis, nous voyons aussi cette méditation de Moïse sur la grandeur et l'éternité de Dieu, qu'il compare dans cette période si singulière des 38 années de désert à la fragilité et à la mortalité de l'homme. Voyez au verset 2, « Avant que les montagnes soient nées, que Dieu ait créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, il est Dieu. Il est l'Éternel. Il n'a pas de fin, ni commencement. Il est. Il est celui qui est. C'est le Seigneur. Il est tout-puissant. Il nous connaît dès le commencement. Il sait dès le commencement ce qui doit arriver et il amène toute chose à se produire selon le conseil de sa volonté. Puis par comparaison, l'homme, Moïse était conscient, en regardant sa propre vie et la marche d'Israël dans le désert, de ce qu'était l'homme. Il dira de l'homme au verset 5, « Tu les emportes, semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. » Voyez, c'est la parole que Dieu avait prononcée dans le jardin d'Éden, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, suite au péché de notre premier parent. » C'est un moment qui arrive rapidement que celui de la mort. La vie est brève. Au verset 6, nous voyons qu'il est dit de la vie de l'homme qu'elle fleurit le matin et elle passe comme l'herbe. On la coupe le soir et elle sèche. Au verset 5, Moïse compare la vie de l'homme. Alors c'est écrit dans la version que nous lisons à un songe, mais le texte dit littéralement à un sommeil. Et on se couche le soir, puis le matin vous ouvrez les yeux, la nuit a passé, vous ne l'avez pas vu. Peut-être y a-t-il au milieu de nous ce matin des jeunes gens, bien sûr il est difficile de se rendre compte de la brièveté de la vie lorsque l'on est jeune. Mais certainement il y a aussi dans cet auditoire, des hommes et des femmes qui font l'expérience et qui ont fait l'expérience de la brièveté de l'existence. Ça passe tellement vite, tellement vite. Moïse était conscient. Quel âge avait-il ? Moïse, certainement, n'avait pas loin de 100 ans, peut-être davantage, si ce psaume était écrit vers le terme de cette période des 38 ans, il n'avait pas loin de 120 années. C'était passé comme un son, comme un songe, comme un rêve. Ceci, bien sûr, amène Moïse, dans la suite du psaume, à une réflexion sur la mort. Au verset 3, il écrit « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. » Vous voyez, la mort n'est pas le produit de l'évolution, comme certains voudraient nous le faire croire. C'est Dieu qui, pour chacun, en fixe le moment. Il y a un moment où Dieu dit à chacun, retournez. C'est le moment solennel où Dieu nous appelle à lui, où le corps retourne à la poussière et l'âme, l'esprit, retourne à Dieu. qu'il a créé. C'est important pour nous d'être conscients de cette réalité pour vivre la vie comme elle doit être vécue. La mort est un sujet que personne n'aborde. Avez-vous remarqué que dans les cercles sociaux les plus élevés, chez ceux qui revendiquent la plus grande liberté de parole sur tous les sujets, c'est un sujet qu'on évite, c'est un sujet que l'on écarte. Et pourtant, c'est le rendez-vous, dit la Bible, de tous les vivants. Vous voyez, il n'est pas question ce matin d'être morbide, mais il faut parfois, dans la présence de Dieu, considérer les choses en face. Parfois, ce sont des jeunes gens, des enfants, qui sont fauchés par quelque accident, quelque événement fâcheux, et que de larmes, que de tristesse, que de peine, quand il en est ainsi. Parfois, c'est tel homme, telle femme, dans la force de l'âge, qui est, alors qu'il avait, elle avait fait tant de projets, qui est frappé par la maladie, et qui retourne à la poussière. Parfois, c'est au terme d'une longue vie, fructueuse, au terme de bien des réalisations de projets, impressionnants, mais que l'on se retrouve à 70, 80, 90 ans, en face de la proximité de la mort. Voyez, Moïse ici en parle du fait rentrer les hommes dans la poussière. Il n'est pas question, encore une fois, d'être morbide. Pour le chrétien, la mort est la porte d'entrée sur la gloire. Nous avons, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Jésus-Christ, une espérance sûre et solide. Nous la possédons comme une ancre de l'âme. Elle pénètre au-delà du voile, dans l'éternité, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Amis, avez-vous ce matin cette espérance, cette assurance que pour l'éternité vous serez auprès de Dieu? Si ce n'était pas le cas, oh, venez à Jésus-Christ. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Et il assure que celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Quelques réflexions de Moïse sur les raisons pour lesquelles la mort fait aujourd'hui partie de la vie, car elle ne faisait pas originellement partie du dessein de Dieu. Au verset 7, Moïse écrit « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Comprenons par ces versets que la mort a quelque chose à voir avec le péché, le rejet de la volonté de Dieu. Pour les hommes en général, tout a commencé dans ce jardin lors de la faute de nos premiers parents. Un apôtre écrira par la mort, par un homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dans le contexte de ce psaume, nous le disions, la mort était étendue sur toute cette première génération d'Israël sortie d'Égypte à cause de l'incrédulité des espions, et de ses hommes et de ses femmes. Nous comprenons par là à quel point l'incrédulité déplaît à Dieu. Nous comprenons aussi par là à quel point il est important, ce matin, d'avoir la foi et de placer notre foi sur la parole de Dieu, l'évangile de notre salut. L'Écriture dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Croit quoi ? Croit que Dieu est. Et pas seulement, mais croit aussi que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Alors, si ce matin vous n'apparteniez pas à Jésus-Christ, si ce matin vous n'apparteniez pas à Dieu, il se peut que vous soyez conscient dans ce lieu, que vous soyez conscient dans votre vie d'un péché particulier qui empoisonne votre existence, que vous aimeriez écarter, dont vous aimeriez vous débarrasser, un péché particulier qui revient, qui pèse sur votre conscience, plusieurs péchés particuliers. Mais ce matin, nous comprenons à la lecture de ce psaume qu'à la racine de tous ces maux et de tous ces péchés se trouve la racine. C'est l'incrédulité. Vous voyez ? Et à partir du moment où vous permettez à la parole de Dieu, au témoignage de Jésus-Christ, de balayer ce péché-là et de créer dans votre cœur la foi, alors le Seigneur non seulement désire vous faire grâce et vous pardonner en Jésus-Christ, mais de vous donner aussi la victoire sur les autres péchés qui ont pu vous paralyser, vous souiller. L'Écriture dit que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Si quelqu'un ne croit pas au Fils, il ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Aussi, croyez en Jésus-Christ et recevez-le comme votre sauveur. Puis si nous appartenons à Christ, demeurons conscients de l'importance de la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est une parole qui est citée à non moins de 3 reprises dans le Nouveau Testament. C'est par la foi que l'on reçoit le pardon, la justification. C'est par la foi, épître aux Galates, que l'on est délivré de l'orgueil, du légalisme, de ses vains efforts pour plaire à Dieu et que l'on se maintient dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Épître aux Hébreux, enfin, c'est par la foi que nous sommes rendus capables, béni soit Dieu, de persévérer malgré les épreuves et le passage du temps. Mon juste vivra par la foi. Alors, malgré toute cette situation particulière, mettons-nous à la place de Moïse. Il voit autour de lui toute cette première génération. Il n'y avait pas moins de 600 000 hommes auxquels s'ajoutaient les femmes et les enfants. Mais les enfants, c'était la deuxième génération. Moïse, pendant ses 38 ans, a vu ses hommes autour de lui, dans le désert, mourir l'un après l'autre. Chaque fois dans des circonstances différentes, parfois de mort naturelle, parfois il en était autrement. Mettons-nous à la place de Moïse. Au terme de cette réflexion sur la mort, au terme de ce que ses yeux voyaient, au terme de sa propre histoire. Si on considère l'histoire de Moïse et son parcours, c'est remarquable. Moïse est né en Égypte. Il a été sauvé des eaux du Nil. Mais ensuite, Dieu l'avait mis à part pour une œuvre glorieuse. Dieu l'avait mis à part pour délivrer son peuple. Et Moïse l'a compris. Est-ce qu'il a attendu jusqu'à ses 40 ans? Est-ce qu'il a repoussé? On ne le sait pas. À 40 ans, il sort pour visiter les Égyptiens. Et voilà qu'il met à mort l'un des Égyptiens qui maltraite son peuple. Alors, ça partait d'une bonne intention. Mais cette fois, il agit avec l'énergie qui lui est propre, l'énergie de la chair. Et son projet échoue, la chose s'ébruite. Moïse prend peur parce que sa vie est menacée et il doit s'enfuir. Il va passer 40 années entre Madian et Horeb à garder les troupeaux. C'est quand il est âgé de 80 ans que Dieu lui apparaît dans le buisson. Cette fois, c'est l'heure de Dieu. Moïse doit mettre en œuvre l'appel qu'il a reçu. Mais cette fois, Moïse ne veut plus. Il discute avec Dieu. Il raisonne. Il tergiverse. Il s'atermoie. Et Dieu est obligé d'élever la voix. La colère de Dieu s'enflamme. Dieu lui adjoint Aaron, son frère. Moïse va délivrer le peuple. Il va faire et accomplir les miracles que Dieu lui ordonne. Ce sera les 10 plaies d'Égypte. Et puis après la Pâque, le peuple sort. Dieu le délivre pour toujours des Égyptiens. Mais voilà qu'au moment où les espions sont envoyés, c'est l'incrédulité. Le peuple n'entre pas. Et pendant 38 années, Moïse va conduire ce peuple dans le désert, tournant en rond. Et pour couronner le tout, alors on ne sait pas exactement à quel moment de la vie de Moïse, à quel moment de ses 38 ans ce psaume est écrit. Moïse avait-il déjà entendu cette parole de Dieu qui lui a été adressée après les eaux de Mériba? Un jugement de Dieu sur cet écart de Moïse. lui non plus n'entrera pas. Lui non plus devait ne pas entrer parce qu'il s'est exprimé légèrement des lèvres, parce qu'il a manqué de sanctifier Dieu auprès du peuple. Comment aurions-nous réagi à la place de Moïse ? Moïse, au terme de toute cette méditation, prie. Sa prière est pleine de foi. Sa prière est pleine de foi. Il émet en réalité 6 prières dans la fin de ce psaume, sur lesquelles, brièvement, je vous propose de réfléchir maintenant. Au verset 12, ayant médité sur tout ce qu'il a écrit, Moïse va écrire ceci : « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Une fois de plus, ce matin, chers amis, si vous n'apparteniez pas à Jésus-Christ, tournez-vous vers Dieu pour recevoir cette sagesse que seul Dieu peut vous donner dans la vie, pour appliquer vos cœurs à la sagesse. L'Écriture dit que la crainte de Dieu, la foi en Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et encore, que Jésus-Christ a été fait pour nous, sagesse. Et Christ a donné sa vie pour vous. Il désire ce matin devenir votre sauveur et régner sur votre vie dans sa puissance et dans sa grâce. Si nous appartenons à Christ, oui, que Dieu nous enseigne à bien compter nos jours, à mesurer la brièveté de notre vie pour appliquer notre cœur à la sagesse, c'est-à-dire à l'appliquer, à pratiquer ce qui est sage, bon et utile. Et aussi, appliquer nos cœurs à connaître cette sagesse, à nous approcher de Dieu pour grandir dans cette connaissance de la sagesse. Nous avons tellement de progrès à faire. Nous connaissons si mal le Seigneur. Nous avons besoin qu'il nous transforme tellement. Alors bien sûr, c'est légitime que nous consacrions une partie de notre temps au loisir, au repos, bien sûr, mais... voyez, ne vivons pas pour ces choses-là. Ne vivons pas pour les choses de la terre. Appliquons-nous à connaître Dieu, à sonder sa parole, à être fortifiés dans la communion fraternelle, à prier le Seigneur pour être, comme dit l'Écriture, transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et sans doute, assurément, il nous rendra sages, à salut, par la foi en Jésus-Christ. Au verset 13, une deuxième prière est mise par Moïse, et celle-ci, « Reviens, Éternel, jusque à quand ?» Moïse aspirait à ce que la génération d'Israël, qu'il a accompagnée dans le désert, vive des jours meilleurs. Bien sûr, il y a eu dans le désert un châtiment divin sur l'incrédulité du peuple, de telle sorte que c'est la deuxième génération qui est entrée dans le pays de Canaan sous la conduite de Josué. Mais le châtiment que Dieu a infligé à la première génération d'Israël dans le désert n'empêchait en rien que Dieu continue à bénir ceux qui, au milieu même de cette génération, se tournaient vers lui pour recevoir secours et relèvement. Vous voyez, lorsque Dieu châtie, ce n'est jamais pour repousser à toujours. Mais de son châtiment, il tire quelque chose de bon. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parlera d'un fruit paisible de justice. Et Moïse, conscient de ces choses, prie en disant « Reviens, Seigneur !» Vous voyez, il y a dans le livre de Zacharie, cette parole est répétée dans le livre de Malachie, cette promesse remarquable de Dieu, « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Je me souviens de cette église où un jeune homme qui avait vécu une marche rétrograde a été visité par le Seigneur. C'était à la fin d'une réunion, c'était aussi chez lui dans la prière. Il a vécu un temps de visitation comme Dieu parfois en accorde à ses enfants. Et alors que dans son cœur, il était désolé par les années, les mois perdus dans cette marche rétrograde, Eh bien, ce verset, c'est comme imprimé en lettres de feu dans son cœur et sa conscience. « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et béni soit Dieu, ce jeune homme a fait un magnifique retour au Seigneur, et Dieu l'a restauré. « Reviens, Éternel, dit Moïse. » Au verset 14, Moïse prie encore en ajoutant ceci, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. » Voyez, c'est bon ça, quand le Seigneur nous rassasie de sa bonté. Je pense aussi à cette expérience faite par un chrétien qui a traversé des moments difficiles. Oui, il a traversé des moments difficiles. Et un jour, il s'est levé, et ces versets des Lamentations de Jérémie ont été, là encore, comme imprimés en lettres de feu dans sa conscience. « Voyez, quand je pense, écrit Jérémie, à ma misère et au poison, à l'absinthe et au poison, alors mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà pourquoi je veux espérer en lui. » Et ces versets lui ont ouvert les yeux. Voilà, dans son abattement, il s'est rendu compte que mais la bonté de Dieu, chaque matin, chaque fois que le soleil se lève, est renouvelée pour tous ses enfants, et pour lui en particulier. Et c'est vrai pour vous ce matin, quelle que soit votre situation, bien-aimé dans la foi, tentez de succomber, de vous affaisser sous le poids de l'épreuve. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme, elles se renouvellent pour vous, pourrais-je dire ce matin pour toi, chaque matin. Ah, la fidélité de Dieu est grande. Et Moïse, avec raison, pouvait prier, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Une cinquième prière formulée par Moïse, nous la trouvons au verset 16, « Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. » C'est remarquable cette prière. Pourquoi ? Comme nous le disons, Moïse avait conscience que les enfants de cette génération allaient entrer dans la terre promise. Et il savait que ce serait sous la conduite de Josué, homme en qui résidait l'esprit et qui très tôt est un homme sur lequel, aux yeux de tous, Dieu avait posé sa main. Mais Moïse ne prie pas seulement sur les enfants, il dit que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Donc il était conscient que même pour cette génération qui n'entrerait pas, Dieu avait en réserve des bénédictions. Si cette génération tirait des leçons de l'école du désert. Tenez, regardez Moïse. C'est remarquable ça, Moïse. Moïse qui n'est pas entré dans le pays. Malgré tout ce qu'il était, malgré ce qu'il avait fait, il n'est pas entré. Mais Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. On ne sait pas tout. On ne sait pas de quelle manière Dieu a continué à le bénir pendant ses 38 ans, mais n'en doutons pas. Dieu a continué à le bénir, à lui parler, à fortifier son cœur. Et puis, après même la mort, parce qu'il est mort sans entrer dans le pays. Mais Dieu a continué à bénir Moïse. Moïse, bien sûr, est monté dans la gloire. Et puis, Moïse, on le retrouve des siècles plus tard. 1500 ans plus tard, on retrouve Moïse, voilà, qui apparaît dans la gloire où il s'entretient avec Élie et le Seigneur. Sur une des montagnes de Canaan, Dieu a béni Moïse. S'il n'est pas entré là, eh bien, même avant la résurrection éternelle, alors que le Seigneur était encore dans les jours de sa chair, Dieu a permis que Moïse se tienne sur l'une des montagnes de Canaan. Alors pourquoi dire cela ? Et parce que si ce matin quelqu'un un bien-aimé dans la foi, avait vécu des années de désert, le Seigneur aimerait le raviver, ranimer sa foi, le visiter ce matin, pour lui accorder, voyez, un relèvement, pour lui permettre de tirer dans la foi et par la foi le bénéfice de l'école du désert. Un chrétien disait, confié il y a quelques mois, il disait, on voit bien dans les églises que Dieu attire à lui des âmes et que beaucoup de ces âmes sont des jeunes gens et des jeunes filles. Béni soit Dieu pour les jeunes gens et les jeunes filles que Dieu attire dans les églises pour leur ouvrir la porte du salut. Que leur vie, dès leur plus jeune âge, soit marquée par la bonté, par la beauté de Dieu. Que Dieu, au milieu de ces jeunes gens et de ces jeunes filles, fasse lever des hommes qui prêchent la parole de Dieu. Que Dieu, du milieu de ces jeunes gens et de ces jeunes filles, fasse lever des femmes à qui il confiera un service dans l'Église, en mission, localement, des jeunes gens et des jeunes filles sur qui la bonne main de Dieu se trouvera. Mais Dieu voudrait aussi visiter et ranimer la foi de ceux et celles qui marchent avec lui depuis longtemps. Ceux et celles qui le connaissent, les gens de sa maison, sont aussi l'objet des soins de Dieu. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Dans un moment de piété particulier, dans les rassemblements de sa maison, dans votre piété personnelle, ah oui, Dieu aimerait ranimer. Ravivez la flamme et vous visitez, vous marquez par sa présence. Puis nous terminons par la dernière prière de Moïse. Nous la trouvons au verset 17. Et l'homme de Dieu priera que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Moïse prie pour que Dieu agisse dans sa grâce. Tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons dans sa grâce. Ce n'est pas nous. C'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et puis Moïse termine en priant ainsi, « Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Il y a un sens dans lequel on peut imaginer que Moïse, s'il regarde en arrière, peut se poser légitimement la question, finalement, « Qu'est-ce que j'ai accompli ?» Quel est le résultat de ce que j'ai fait? Il y a eu ces souffrances, il y a ces morts autour de moi dans le désert. Ils ne sont pas entrés. Moi non plus, je ne suis pas entré. Quel est le résultat de ce que j'ai fait? Parfois, il y a des heures dans la vie où, dans le cœur des chrétiens, cette même question se fait jour. Vous voyez, un chrétien à l'approche de l'éternité, ou bien dans des moments de crise dans sa vie, peut être amené à réfléchir et à dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le fruit de mon travail? C'est une question que peut se poser ce matin un parent. Quel est le fruit de mon travail auprès de mon fils, de ma fille? Un serviteur de Dieu peut se poser la question, quel est le fruit de ce que j'ai fait? Je vais basculer dans l'éternité et qu'aurais-je à présenter à Dieu? Alors Moïse prie en disant « Affermis l'ouvrage de nos mains ». C'est une prière que Dieu, dans sa grâce, veut exaucer. Jean Calvin disait « Un chrétien porte plus de fruits que ce dont il a conscience. » Il y a des choses que Dieu opère, que nous ne voyons pas, dont nous ne sommes pas conscients, et il y a à nos œuvres accomplies en Jésus-Christ, un fruit qui reste parfois invisible à nos yeux, mais qui n'est pas moins réel dans le Seigneur. Voyez, et lorsque un chrétien contraint, poussé par l'Esprit, formule cette prière, « Affermis l'ouvrage de nos mains », oui, « Affermis l'ouvrage de nos mains », bien nous croyons qu'en Jésus-Christ, Dieu désire exaucer abondamment cette prière, et le fruit des chrétiens se verra pleinement dans l'éternité, dans la nouvelle création que Dieu amènera, elle vient, parce que c'est Paul qui nous rappelle que, parce que pour nous vient la résurrection, notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors on termine cette méditation sur ce psaume en nous souvenant que pour Moïse, bientôt viendrait l'heure de passer le flambeau à Josué pour le passage en Canaan. mais que pour lui, l'homme de Dieu, et pour la génération qu'il avait accomplie, malgré la situation de cette génération-là dans le désert, eh bien, il y avait encore une œuvre à accomplir. Béni soit Dieu, et le Seigneur nous encourage, voyez, à faire tout ce que notre main trouve à faire, parce que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment, qu'il bénisse pour nous ce matin la méditation sur ce psaume magnifique de l'homme de Dieu. Prions quelques instants. Te bénissons, Seigneur, de ce que, si tu permets parfois dans nos vies également l'école du désert, tu restes le fidèle et le véritable. Oui, nous avons cité ces versets de Jérémie chaque matin. Oh, ta fidélité est grande, ta bonté, tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu les renouvelles chaque jour. Te prions pour que nous vivions dans cette conscience et dans l'attente patiente du jour de Christ qui vient, où tu recevras ton Église et où tu donneras à chacun en Christ les récompenses. Te prions de nous permettre de vivre dans ta lumière et d'expérimenter dans la foi ton aide, ton secours, ta force et ta bénédiction. Qu'à ton nom soit la gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen.